Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre plus et à s'améliorer, aussi bien mentalement que physiquement. Et aujourd'hui, petit épisode tranquille dans lequel je vais te raconter une histoire, ou plutôt je vais te raconter deux histoires qui se rejoignent un petit peu au niveau de la conclusion que je trouvais intéressante, qui m'est revenue à l'esprit en fait, sortie un petit peu de nulle part. Je vais te raconter ça. Voilà, ce sera un épisode un peu tranquille, tu vois, j'enregistre ça dimanche 13 février, il est tard, on est le soir, il fait nuit, je suis un petit peu calmé de ma fin de journée, et c'est vrai que normalement j'enregistre mes épisodes plutôt en milieu de journée. Le 61 sur mes objectifs, je l'avais aussi enregistré le soir, et j'ai l'impression que ça s'entend dans ma voix, tu vois, j'ai une voix un petit peu plus posé comme ça, c'est la fin de la journée, etc. Bref, j'ai eu des bons feedbacks aussi sur cet épisode. Et puis, ouais, je trouve que c'est le mood, tu vois. Je me suis commandé une pizza, elle devrait arriver dès que je finis cet épisode. Donc franchement, tout va bien dans la vie, tu vois. Donc c'est l'occasion de raconter une petite histoire juste pour se mettre en bouche et se donner faim, tu vois. C'est marrant parce que comment j'ai eu l'idée de faire cet épisode, je t'avoue que c'est sorti un petit peu de nulle part. Hier, samedi, je vais faire une séance push à la salle, donc grosse séance bien cool qui fait partie de ma prise de masse actuelle, comme je vais en raconter les péripéties sur YouTube. Et en sortant de la salle, je suis en voiture, je regarde dans mon rétroviseur et je vois une Yamaha R6 bleue, donc une moto, c'est une moto. Et là, paf, d'un coup, je me dis, waouh, cette moto, elle est toujours aussi belle, parce que ça, c'est la moto de mes rêves. C'était la moto de mes rêves. Plutôt, et tout d'un coup, ça m'a rappelé pourquoi j'ai arrêté de faire la moto, pourquoi je n'aurais probablement jamais cette moto. J'ai fait le lien avec le ski, parce que ça se rejoignait, comme je l'ai dit, et tout d'un coup, pouf, je me suis dit, bah voilà, en fait, je peux en faire un épisode, et j'étais très content, tu sais pourquoi ? Parce que le matin même, j'étais devant mon tableau blanc, qui est juste là, tu peux voir sur la vidéo, juste à côté de moi, j'étais penché par-dessus mon tableau blanc, en train d'écrire des idées, de me creuser la tête pour trouver des nouveaux épisodes à faire, solo notamment, et j'ai pas, bah c'est pas que j'ai pas trouvé grand-chose, mais ouais, j'aurais pu trouver plus de trucs, tu vois, concrètement. Et comme souvent, il a juste fallu que j'arrête d'essayer d'y penser, que j'aille faire autre chose, et que l'inspiration frappe sans prévenir. Donc voilà, petit rappel à ce niveau-là, quand tu te creuses trop la tête sur un problème ou quoi, c'est généralement dès que tu arrêtes d'y penser et que tu te laisses en fait surprendre, que tu seras surpris par la bonne inspiration. Quoi qu'il en soit, on va se lancer dans ces petites histoires du jour. Juste avant, je veux faire un petit merci à tous ceux qui laissent des reviews sur iTunes et sur Spotify. Notamment, je viens d'aller regarder juste avant cet épisode, on est à plus de 400 sur iTunes, on est à presque 700 reviews sur Spotify avec 5,0 étoiles de moyenne partout. Donc franchement, ça fait plutôt plaisir. Ça me booste mon ego, tu comprends, c'est plutôt agréable à voir, on va pas se le cacher. Donc merci beaucoup à tous ceux qui prennent le temps d'aller poser une petite review, d'aller poser du feedback, de me laisser un petit commentaire écrit ou de m'envoyer un DM sur Instagram pour me dire ce qu'il ou elle a pensé d'un épisode ou du podcast en général. Ça me fait plaisir et c'est ces retours humains ou ces retours statistiques et purement chiffrés d'un numéro, tu vois. Les deux à leur manière, font leur petit effet pour me booster, me motiver, me donner envie, en plus de mon envie intrinsèque, bien entendu, de faire encore plus d'épisodes. Donc voilà, merci à toutes et à tous. On se lance dans cette petite histoire et on va commencer par l'histoire sur la moto. Et vu que je me sens d'humeur Père Castor ce soir, tu vois, je vais poser un petit peu le décor, tu vois, au lieu de plonger, on va poser quelques éléments du décor, comme ça, tu vois. Nous sommes dans la jeunesse du petit Eric. Eric habite dans un village un petit peu éloigné de la grande métropole, qui n'est pas du tout une grande métropole, mais qui est, disons, la grande ville du coin, qui s'appelle Lausanne. Nous sommes en Suisse, tu vois, au bord du lac Léman. Très joli paysage. Eric habite donc dans ce... je vais parler à la première personne parce que sinon ça va déraper. J'habitais pendant très longtemps dans un petit village qui était assez loin pas loin de tout, mais à partir du moment où je suis arrivé au lycée, c'était assez loin, je devais prendre deux bus pour aller au lycée, et quand je suis allé à l'université, c'était galère, il fallait marcher, prendre le train, prendre le métro, enfin bref, ça prenait une heure et quart, une heure et demie d'y aller, bref, Le petit village un petit peu perdu, tu connais peut-être, c'est pénible. Transport en commun, ça prend beaucoup de temps. C'est pénible aussi, moi, je trouve. Et c'est bien pour ça, entre autres, que j'ai voulu avoir une moto. Alors, c'était pas que pour ça. À 17 ans, j'ai eu ma toute première moto. Et à 17 ans, j'étais vraiment assez loin du summum de la confiance en moi. Tu vois, j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, mais à 17 ans... Bah 17 ans, c'est le moment où je me suis repris en main à ce niveau-là, gentiment. Subjectivement, j'ai commencé la musculation. Je me suis acheté une moto, tu vois. La moto, mine de rien, j'avais l'impression que ça donnerait un boost de statut. T'as quand même une moto, tu débarques sur ta moto, t'as ton casque... T'as ta veste de moto, ta veste en cuir. Je m'étais acheté une veste en cuir à ce moment-là. Et oui, je m'étais acheté une veste en cuir à ce moment-là. Oh, la vieille époque, putain. Et voilà, du coup, je m'achète une moto de 50 cm cubes. Donc vraiment une petite moto qui va, je sais plus à combien elle allait, 70, 80, ouais, quelque chose comme ça. C'était une Peugeot, je me souviens plus exactement du modèle, mais c'était une Peugeot d'occasion qui n'avait pas coûté grand-chose. Ma mère était totalement contre la moto pour des raisons relativement évidentes de c'est dangereux. Sauf que j'ai un grand frère qui a 2 ans de plus que moi et lui avait déjà fait tout le travail pendant plus d'une année pour convaincre ma mère de lui laisser avoir une moto. Et donc, si lui, il en a eu une, bah, autant dire que pour moi, il suffisait de signer en bas à droite, si tu vois ce que je veux dire. J'avais même pas eu besoin de me battre pour l'avoir. Forcément, si mon grand frère l'avait eu, eh bien, il n'y avait pas de raison pour que moi, je ne puisse pas. Et d'ailleurs, c'était peut-être à 16 ans, c'était plutôt vers la fin de mes 16 ans, je pense, que j'ai eu cette première moto. Et cette première moto, cette super Peugeot, eh bien, je l'ai détruite. Je l'ai détruite à coup d'accident, figure-toi. Eh ben oui, quand tienne, ça a peut-être donné raison à ma mère. Enfin bref, de toute façon, on va en parler. Tu te doutes bien que si je parle de moto et pourquoi j'ai arrêté, peut-être que des histoires d'accidents vont entrer en jeu, hein, qu'on se le dise. Bref, je me suis bien pété la gueule avec cette moto, il faut dire ce qui est. J'avais passé mon permis, bien évidemment, avant de conduire une moto, j'étais obligé. Mais je crois que je me suis croûté bien comme il faut 4 fois, je crois, avec cette moto. Et elle a terminé à la casse parce que la dernière fois que je l'ai explosé, bah je l'ai amené au garage et là il m'a dit « Monsieur, votre moto, elle est morte. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ?» Bah, je lui dis « Bah, du coup, débarrassez-moi parce que je vais pas utiliser les pièces. Moi, je suis zéro mécano, tu vois, j'arrive... J'aime bien créer des vidéos, faire des trucs digitaux. Par contre, faire des trucs avec mes mains, le bricolage, tout ça, c'est pas mon fort. Et force est de reconnaître, on peut pas être... Voilà, je me concentre sur mes forces plutôt que d'essayer d'apprendre à bricoler et à m'orienter parce que je suis extrêmement nul en orientation. Voilà, petite anecdote pendant qu'on y est. Comment est-ce que je me suis yesh en moto? Bah en fait, je me souviens de deux de ces chutes. La première était complètement bête. Je venais d'avoir ma moto et manifestement, je ne savais pas conduire, qu'on se le dise. Je ne sais pas ce que je foutais sur ma moto. Tu sais pourquoi? J'étais allé chez un pote, je me souviens plus pourquoi, faire un poker ou quoi, je crois, un samedi. Et je rentre ensuite, c'était à un quart d'heure de chez moi, tu vois. Et je rentre de chez lui. Et je ne mets pas mes gants de moto. Je mets ma veste, mais je mets pas mes gants. Pourquoi? Bah, je sais pas, parce que je suis teubé, probablement. Je mets pas mes gants. Donc, c'était des gants renforcés et tout. Tu vois, j'avais acheté ce qu'il fallait. Et je mets mes gants dans mon sac. Et la preuve que je ne savais pas faire de moto, c'est que j'arrive à un rond-point qui est proche de chez moi. Et il fallait que je fasse 3/4 tour pour sortir du rond-point. Donc, j'entre dans le rond-point. Il fallait que je sorte à gauche. Et donc, je devais faire un 3/4 tour. Et pour tourner en moto, il faut se pencher. Tu vois, il faut se pencher sur le côté, t'es obligé. Ça peut peut-être vaguement faire peur au début, mais normalement, tu tombes pas en te penchant. La preuve, je me suis pas assez penché et je me suis tombé. Et je suis tombé. Tu sais pourquoi? Parce que vu que j'ai pas assez penché, j'ai pas assez tourné et je me suis pris le trottoir de la sortie du rond-point. Comme un blaireau. Je suis rentré dans le trottoir, je me suis pété la gueule et je me suis ouvert les mains de partout. Pourquoi? Parce que mes gants étaient dans mon sac, bien sûr. Putain, mais quel abruti. Et aujourd'hui, j'en ai encore des cicatrices. On les voit plus trop, mais moi, je sais où elles sont, donc je les vois. Mais sur mes phalanges, parce que mes phalanges étaient plus ou moins en sang, tu vois, classique. Et la paume de ma main droite, juste ici. Ça se voit un petit peu moins maintenant, mais si je les compare l'une à côté de l'autre, en fait, ça se voit clairement. Là, c'est blanc. C'est blanc, pourquoi? Parce que bah, ça a été grappé sur du goudron, tu vois, tout simplement. Donc, ça m'a pas du tout refroidi. Ensuite, j'ai commencé à mettre mes gants sur mes mains plutôt que dans mon sac. Voilà, première petite leçon. Première petite leçon que j'ai tirée de tout ça. Bref, deuxième petite histoire. Là, c'était plus la faute de la moto qui n'était pas d'une qualité extraordinaire, il faut croire. L'accélérateur de la moto s'est bloqué. T'imagines, ça fout les boules. J'étais en descente et l'accélérateur s'est bloqué à fond. Ça veut dire que ma moto s'est mise à accélérer de ouf. Et bah moi, je panique. Au lieu de tourner la clé, ce qui aurait été la seule bonne chose à faire, et bah je plante les freins, ça bloque la roue. Je m'expose par terre, la moto glisse et moi aussi. Mais là, j'étais habillé en combinaison complète parce que j'avais acheté une grosse veste, etc. Je me suis juste râpé un peu le cul, mais voilà. Enfin bref, tu vois, je me suis un petit peu cassé le... Je me suis cassé la figure avec cette moto et c'est un petit peu les... C'est un petit peu les seules fois où je me suis cassé la figure en moto. Pourtant, c'était que la première année de moto et j'ai fait de la moto pendant 8 ou 9 ans. Et ensuite, j'ai arrêté de me péter la gueule. Faut croire que j'avais quand même appris quelques trucs. J'avais appris à conduire, manifestement, et à m'équiper comme il faut. Voilà, ça, c'est important. Et heureusement, j'ai pas payé trop cher le fait d'apprendre tout cela. Donc, ma moto meurt. Je rachète une petite Yamaha 50 pour les 6 mois qui me manquaient pour rallier mes 18 ans. Parce qu'à 18 ans, je voulais acheter une plus grosse moto. Et le jour de mes 18 ans, j'achète une Yamaha R125 neuve. D'un bleu absolument magnifique que j'adore, j'adore le bleu, mais alors ces motos Yamaha bleues, qu'est-ce qu'elles sont belles, putain, j'adore. Et cette moto ne me lâchera pas jusqu'à sa mort naturelle, une fois que je l'ai juste épuisée à coups de dizaines de milliers de kilomètres. Et donc j'ai conduit cette magnifique moto tout le temps, pour aller partout, pour faire tout et n'importe quoi, par tous les temps, de mes 16 à mes 25 ans, j'ai conduit cette super moto. J'ai conduit jusqu'à moins 10 en hiver, enfin tu vois, balèque, hein, il pleut, il neige. La seule raison pour laquelle je ne prenais pas ma moto, c'est s'il y avait de la glace ou de la neige de façon évidente sur la route devant chez moi, tu vois, sinon je prenais ma moto parce que j'avais envie d'aller quelque part et que ça me prenne 20 minutes au lieu que ça me prenne une heure et quart, tu comprends le raisonnement, donc j'ai dû apprendre à avoir froid au cul, bon voilà, ça en fait partie, hein, quand tous les motards connaissent, normalement, je l'ai déjà, voilà, j'ai dû trimballer ma grosse veste avec moi en été quand j'allais quelque part, j'ai abandonné ma moto en ville parce qu'en fait je prenais ma moto pour sortir, parce que c'était trop galère de sortir en ville le soir. Donc, je prenais ma moto, je la laissais en ville. Et puis, j'allais m'écraser sur le canapé d'un pote parce que j'avais trop bu. Bien sûr, on avait fait la teuf, tu comprends. Normal, j'étais jeune et fou. Et je revenais chercher ma moto le lendemain, etc. Enfin, bref. Voilà, c'était sympa. Je me sentais assez libre, mine de rien, au guidon de cette moto. Tu vois, c'est quand même un sentiment de puissance assez intéressant que de pouvoir... tourner une poignée comme ça et de sentir un truc accélérer. Et encore, j'ai jamais conduit une moto très puissante. Enfin, si, j'avais conduit j'ai conduit une 600 qui était un de mes potes à moi. Et là, limite, elle partait directement sur la roue arrière quand t'accélérais trop fort. Donc, ouais, c'est impressionnant ces trucs. Mais bref, on en arrive au point culminant de cette histoire. J'arrive fin 2016, donc à mes 25 ans, je commence mon affectation au service civil, ma deuxième affectation au service civil dont j'ai déjà parlé dans quelques épisodes, et ben je vais en reparler dans celui-ci. C'était l'affectation où j'ai été, voilà, le service civil, je suis obligé de le faire en étant suisse si je refuse de faire le service militaire, ce que j'ai fait, et j'ai travaillé 6 mois comme animateur dans une institution pour personnes handicapées physiques, notamment. Donc, une institution où il y avait des gens qui habitaient dedans parce qu'ils étaient dépendants pour vivre, qu'on devait s'occuper d'eux. Des gens généralement qui avaient eu des accidents ou qui étaient atteints de maladies dégénératives incurables, du style la sclérose en plaques. Et il y avait des gens qui s'en occupaient, bien sûr. Il y avait des gens qui organisaient des petites activités, des sorties. Et moi, je faisais partie de cette équipe pendant 6 mois. Donc, comme tu t'en doutes, ça a été une expérience humaine. Particulièrement riche en émotions et très enrichissante. Et pendant cette période, ma moto se faisait vieille. Je devais prendre l'autoroute pour y aller. Ça me prenait 35-40 minutes. C'était assez long. Ma moto, elle avait de la peine à elle avait de la peine à maintenir les 120-125 km/h. C'était quand même pas une énorme moto. C'était une 125. Et donc, je commençais à me dire qu'il allait être temps de prendre une plus grosse moto. Une plus grosse moto du style une R6. Une R6, c'est donc une 600. C'est une très grosse moto qui peut aller très très vite quand elle n'est pas bridée et que je trouvais absolument magnifique. J'ai même encore été regarder des photos hier. Putain, la R6 modèle 2008, 2010, 2012, tout ça. Purée, qu'est-ce qu'elle est. Je la trouve toujours magnifique cette moto, il n'y a rien à dire. Donc j'hésitais entre ça, j'hésitais à me prendre peut-être une 250 parce que d'un côté je trouvais ça un peu dangereux de prendre une moto trop puissante, tu vois. Sauf que je me retrouvais sur cette autoroute en moto. Et j'avais un petit peu peur. Hein. L'autoroute à moto, je me dis, putain, autant les petites routes à 50 ou à 80 en ville ou je ne sais quoi, ça va encore. Autant sur l'autoroute, quand ça roule à 120 et que t'as des bagnoles qui te dépassent et tout, je me dis, si je me pète la gueule, Eh bien, je ne sais pas ce qui se passe. Eh bien, j'en ai appris un petit peu plus, justement. Comment ? Eh bien, dans cette institution, justement, un des résidents duquel je me suis pas mal occupé avait une histoire particulièrement en rapport avec cela. Cette histoire, c'est une de mes collègues qui me l'a racontée. Ce monsieur venait d'assister à la naissance de son deuxième enfant. Il faisait de la moto régulièrement depuis très longtemps. Et sa femme lui dit « Eh bien voilà, notre deuxième enfant est né. Ce serait probablement bien pour toi, pour nous, et plus sûr que tu arrêtes la moto. » Et le monsieur était d'accord. Du coup, qu'est-ce qu'il lui dit ? Il lui dit « Ok, j'y vais une dernière fois, pour une dernière sortie. » Voilà, la fin de l'histoire, tu la connais, elle n'est pas du tout joyeuse. Accident sur l'autoroute, et ce monsieur se retrouve éventuellement dans cette institution, incapable de parler, incapable de... Il pouvait communiquer un petit peu en faisant des sons, mais incapable de contrôler correctement son corps, en chaise roulante, en assistance, et il n'y avait rien à faire. Mais il était toujours là, il était toujours présent, et il semblait toujours présent complètement dans sa tête. C'est juste qu'il avait énormément de mal à pouvoir faire quoi que ce soit, même communiquer avec lui, c'était pas facile. Et ce monsieur, je lui ai donné à manger, tu vois, plusieurs fois, je me suis occupé de lui, on a fait des animations, enfin bref, j'ai pas assisté à l'une des réunions qu'il avait de temps en temps avec ses enfants, qui venaient le voir, avec sa femme, mais une de mes collègues m'en a parlé, et ça n'avait pas l'air extrêmement joyeux comme situation et comme histoire. Et ce monsieur m'a fait réfléchir, vois-tu, parce que c'était pas juste une histoire comme ça, c'était pas quelque chose qui m'est arrivé, c'était pas quelqu'un que je connaissais, c'était pas un pote, c'était pas mon père, c'était pas quelqu'un de très proche, mais c'était une histoire extrêmement concrète, parce que ce monsieur, je me suis occupé de lui. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ce monsieur n'est plus avec nous. Donc voilà, après avoir vu ça, réfléchi à tout ça et en être arrivé un petit peu à cette croisée des chemins à laquelle j'arrivais, eh bien, j'ai décidé d'acheter une voiture. Voilà, je me suis ravisé et je me suis dit, en fait, la voiture, c'est pas si mal quand même. C'est beaucoup plus cher, c'est plus encombrant, ça prend de la place, c'est chiant à parquer, tu peux pas dépasser tout le monde, mais on est au chaud. On peut écouter de la musique, on peut prendre du matos avec soi, on peut partir en vacances plus facilement. Et on est peut-être un petit peu plus à l'abri si jamais quelqu'un nous rentre dedans. Et on a moins de chances de chavirer et de partir sur le côté aussi. Donc voilà, c'est à cette occasion-là que j'ai acheté ma vieille Clio, qui est depuis partie à la casse il y a quelques mois également, qui m'a rendu bien des services et que j'ai beaucoup apprécié avoir pendant les 5 dernières années de sa vie à elle. Ça n'arrive qu'aux autres. Et là, j'utilise des guillemets pour tous ceux qui ne me voient pas. Dans ce cas de figure, bah, c'était peut-être vrai, mais voilà, comme je l'ai dit, j'ai été suffisamment proche d'un autre pour que ça m'affecte et que ça me fasse poser de sérieuses questions, voilà, dont je viens de te partager les réponses. On va enchaîner directement avec la deuxième histoire et je reviendrai sur la conclusion à laquelle tu te doutes peut-être un petit peu, mais qui va se préciser encore avec cette deuxième histoire à laquelle j'ai pensé juste après avoir pensé à cette histoire de moto, parce que ça se rejoint tout à fait. Et là, on va parler de ski. Et oui, ça n'a pas grand-chose à voir. Remarque, ce sont deux activités qui peuvent être des activités de loisirs, des moyens de locomotion, et qui peuvent aller assez vite. Et qui va être assez dangereux. Donc tu comprends un petit peu les similitudes qu'il va y avoir dans cette histoire, probablement. Et cette histoire a tenu place au début de l'année 2013, en février ou en mars, je ne sais plus exactement. D'ailleurs, j'avais ma moto à cette époque-là. Donc ça revient avant cette histoire de la moto, qui a été peut-être le deuxième élément, mais je trouvais ça plus intéressant de les raconter dans cet ordre-là. Ça s'est passé pendant une semaine dans un chalet à la montagne avec des potes. Et oui, bah juste avant d'entrer dans le vif du sujet, ou plutôt dans le métal du sujet, Tu vas comprendre. On va faire un mini retour en arrière. On va à nouveau poser vite fait le décor. On va pas trop s'attarder, mais voilà, tant que j'y suis à raconter des histoires, autant raconter des histoires. Vois-tu, je suis suisse, comme je l'ai dit, j'ai toujours habité à moins d'une heure des pistes, les pistes de ski les plus proches de chez moi, et à moins de 2 heures de très grosses stations qui te permettent de skier plus ou moins toute une vie, si tu me demandes. Après, je suis pas le plus gros aficionado de ski. Mais il y a de quoi faire. Il y a beaucoup de grosses stations bien connues qui vont en Suisse, en France, mais que tu peux accéder depuis la Suisse. Enfin bref, tu connais peut-être un petit peu. Et mes parents nous ont mis sur des skis, mes frères et sœurs et moi, vers l'âge de 4 ans. Donc j'ai appris à skier très jeune, comme un bon Suisse, j'ai envie de dire. On skiait tous les Noëls. En famille, on skiait tous les mois de février pendant une semaine aussi en famille, pendant les vacances de février, les vacances scolaires. Et à Noël, pendant très longtemps, pendant que j'étais jeune, on prenait des cours de ski pendant une semaine à Noël, histoire d'apprendre sans que mes parents aient à nous apprendre entièrement et qu'on puisse faire des petits cours groupés, se faire des petits potes, faire du chasse-neige tous ensemble. Tu vois un petit peu les bails. J'ai pu aller pécho mes petites étoiles, parce qu'en fait, je sais pas du tout si ce système est toujours d'actualité, s'il est suisse, français, partout, mais en fait, t'avais des petits cours, tu faisais une semaine de cours, et à la fin, si tu validais le test de fin, eh ben, tu gradais, tu gagnais un pins, tu vois, tu gagnais littéralement un pins. D'abord, tu pouvais choper l'étoile blanche, ou je sais plus quoi, c'était le flocon, un truc du genre, et ensuite, t'avais la première étoile, la deuxième étoile, la troisième étoile, et peut-être même, il y avait encore un truc après, je me souviens plus, ça fait vraiment 20 ans, donc je me souviens plus très bien, je t'avoue. Mais on était là, on était chaud tous les ans, on venait raquer des étoiles, tu vois. Aujourd'hui, j'ai 5 étoiles sur ce passif. Sa mère. Ah, tu vois, j'ai commencé jeune dans les étoiles, tu vois, c'est ça. Bref, j'ai chopé toutes mes petites étoiles, tu vois, et vers 16 ans, eh bien, je skiais très bien, et c'est resté le cas depuis, même si je pense que j'étais au sommet de comment je skiais, aux alentours de mes 18 ans, je pense, jusqu'à ce que j'arrête d'aller skier avec mes parents, parce qu'à partir de là, une assez lente stagnation, voire petit déclin, a commencé avec mon niveau de ski, tout simplement parce que c'était pas une passion pour moi que de skier régulièrement, que ça coûte très cher et que pendant longtemps j'avais pas beaucoup de thunes, et qu'en plus il fait froid et qu'il faut aller jusque là, enfin bref, tu vois, ça n'en valait pas vraiment la peine pour moi. Et donc j'y allais à peu près une fois par an, généralement une fois par an, mais j'ai jamais été le mec à me lever tôt le matin pour aller skier tout seul 9 heures sur les pistes, tu vois, ça jamais. Donc j'y allais de temps en temps avec des potes quand j'étais invité, quand il y avait des trucs qui étaient organisés et tout, mais c'est vrai que c'est pas moi qui organisais les sorties à ski. Et puis, une fois sorti sur les pistes, eh bien, je cherchais plutôt les sensations fortes et la vitesse, tu vois. Je voulais me sentir vivant, tu comprends. Et donc, je kiffais tester certaines pistes le plus vite possible. Comment est-ce qu'on fait pour faire une piste le plus vite possible? Eh bien, c'est tout con, tu vas tout droit. Tout simplement, tu vas tout droit et ça va très vite. T'arrives en bas, tu dérapes, t'as terminé la piste, voilà, ça t'a pris 11 minutes de montée, t'es descendu en 40 secondes. Voilà, si toi tu trouves ça pas rentable, je peux comprendre, mais voilà, à l'époque j'aimais bien faire ça, tu vois. Donc après voilà, donc, qu'on se le dise, hein, j'allais pas faire ça sur des pistes noires remplies de bosses, quand même, j'étais pas du tout taré à ce point-là, et j'étais pas du tout fort à ce point-là. Je me débrouille bien en ski, mais j'ai jamais poussé le truc à l'extrême. Tout ça. Mais quand même, j'aimais bien pousser un petit peu mes limites dès qu'il y avait des belles pistes relativement raides et assez larges quand même, histoire de, bien sûr, de rentrer dans personne. Je suis jamais rentré dans personne en ski, sauf erreur. Ouais, non, je m'en souviendrai, je pense. Eh bien voilà, je me faisais plaisir sur ce genre de piste. Bref, je crois que t'as cerné un petit peu le personnage, t'as cerné un petit peu comment j'étais à 22 ans ou quoi, parce que je crois que c'est l'âge que j'avais à peu près. Non, attends, 2013, 22 ans, exactement, j'avais 22 ans. Et retour à ce chalet avec des potes, donc 2013, on a une semaine de chalet avec des potes, c'est la dernière fois que j'ai fait un séjour aussi long, tu vas comprendre pourquoi. Parce que première journée de ski, première matinée de ski, on sort skier avec des potes, voilà, on était dans une région Ninda, ça s'appelle, c'est en Valais, en Suisse, voilà, les Suisses reconnaîtront probablement un petit peu. Et je ne sais pas si tu sais, je pense que tu sais si tu as déjà skié. Sur les pistes de ski, des fois, il y a des espèces de banderoles oranges sur lesquelles c'est écrit « ralentissez ». C'est écrit « ralentissez », c'est écrit « slow »,« langsam », c'est écrit dans toutes les langues pour que tu comprennes bien qu'il faudrait mieux que tu ralentisses parce que parce qu'il y a une couille juste derrière, probablement, c'est verglacé, il y a des cailloux. Bref, il vaut mieux pas faire le con autour de cette autour de cet endroit. Le problème, c'est que pour un petit con comme moi, eh ben ce genre de truc, c'est juste de la provocation à être encore plus con, tu comprends ? Qu'est-ce que je faisais donc avec ce genre de banderole ? Eh ben, j'arrivais tout droit sur la banderole, je m'allongeais sur mes skis, donc je m'allongeais en arrière, limite, mais vraiment, je m'allongeais, voilà, le dos touchait la neige, ou presque, et ça me permettait de passer sous la banderole, tu comprends ? C'est extrêmement intelligent, on en convient tous les deux, moi je trouvais ça assez drôle à l'époque. Après, voilà, généralement, il n'y avait pas grand-chose derrière ces banderoles, et puis... Et il n'y avait jamais personne dans lequel rentrer, parce qu'ensuite je me relevais, je continuais, je me retournais pour chercher le regard approbatif et de validation de mes potes, tu vois, parce que je voulais faire le show devant mes potes, qu'on se le dise, je faisais pas ça que pour moi. C'est pour épater la galerie que tu fais ce genre de conneries, c'est bien connu. Et donc on fait une piste où il y avait cette banderole en bas. On fait la piste une première fois, je passe sous la banderole, tout va bien. Je me sens chaud, tu vois, je me dis putain, cette petite banderole en bas de la piste, c'était tout en bas de la piste, tu comprends, il y avait un long pont, il y avait un grand pont. Juste avant le pont, il y avait ce panneau, cette banderole ralentissait parce qu'on arrivait sur le pont. Le pont n'était pas ultra large. Et puis au bout du pont, on était en bas de la station, il y avait le télésiège pour remonter. Et là, on arrive gentiment à la fin de la matinée, vers midi, et on veut en faire une dernière. On veut la refaire une dernière fois avant d'aller manger. Et donc c'est là qu'il s'est passé un truc. Parce que figure-toi que ça a été ma dernière descente de la journée. Et ça a été ma dernière descente de la semaine, en fait. Ça a été ma dernière descente pour un bon moment. Parce que on est remonté et on est redescendu et je suis repassé sous cette banderole. Sauf que ce coup-ci, apparemment, je suis allé un petit peu plus vite. Je suis allé un petit peu trop vite sous cette banderole. Et je me suis retrouvé sur le pont derrière. Sauf que j'ai pas réussi à reprendre le contrôle de mes skis assez rapidement. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Eh ben, je me suis explosé dans la barrière de métal qui était sur le bord du pont. Parce qu'en fait, c'était un pont, donc il était en hauteur, donc il fallait pas que les gens tombent du pont. Donc ils ont mis des grosses barrières en métal pour que les gens ne tombent pas. Et quelle est l'abruti qui, se relevant péniblement de dessous sa banderole, est venu s'exploser ? Et quand je te dis s'exploser... entre la barrière et moi, qui c'est qui a été le plus solide ? C'est clairement la barrière. Donc, je me suis explosé sur la barrière. Je perds mes skis, je me fais mal, je suis à moitié sonné, tu vois. Mais je me sens pas si... C'est pas la première fois que je me pète la gueule à ski, tu vois. Eh bien, je suis déjà tombé plusieurs fois, je me suis jamais fait mal à ski, non. Jamais rien cassé, jamais rien foulé de ouf. J'ai jamais trop fait le fou, en vrai. Ça a toujours été relativement contrôlé, les trucs que j'ai fait apparemment, ou alors j'ai toujours eu de la chance, et c'est possible aussi. Il n'empêche que je me relève, je suis complètement shooté par l'adrénaline et par le choc que je viens de me prendre, parce que je sais pas à quelle vitesse j'allais, mais t'inquiète que je me suis arrêté net. Et là, je me lève, et mes potes viennent vers moi, me demandent si ça va. Et puis moi, je sais pas, je reprends un peu mes esprits, je me dis ouais, je crois que ça va. Franchement, ouais, tout va bien. Je sentais rien, enfin, j'avais mal nulle part, donc je me dis tout va bien, pas de souci. Et puis là, je me lève, je prends mes skis, je marche un petit peu. Enfin, je m'apprête gentiment à remettre mes skis, et puis je me dis ouais, je me sens quand même un peu chelou, les gars. Je vais peut-être juste aller à l'infirmerie parce que j'étais à 50 mètres au bout du pont. Il y avait la station, donc il y avait une infirmerie sûrement. Je me suis dit, on est en bas des pistes, il y a sûrement une infirmerie ou quelque chose. Et je me dis, je vais peut-être aller voir quand même un peu ce qui se passe. Et du coup, j'arrive dans l'infirmerie, je dis, ouais, je viens de me péter la gueule à ski. Je me sens un peu chelou. Vous voudriez pas m'ausculter un coup juste pour voir ? Apparemment, je me doutais d'un truc. Mais je sentais absolument rien. Et donc, j'arrive dans l'infirmerie. Un monsieur s'occupe de moi et il me dit qu'est-ce qui s'est passé. Je lui raconte. Je lui dis, bon, je crois que ça va, mais je sais pas. Et le mec me dit, bon, ok, on va quand même checker tout ça. Je m'étais explosé le côté gauche. Je suis arrivé, je me suis pris la barrière gauche et je me suis explosé le côté gauche. Et en fait, c'est mon bras qui a tapé la barrière en premier, apparemment. Pourquoi ? Parce que le monsieur m'enlève ma veste de ski. Et en m'enlevant ma veste de ski, je me souviens qu'il a posé sa main sur mon bras gauche, après l'avoir enlevé ma première manche. Et en fait, il enlève sa main de mon bras et sa main était pleine de sang. Évidemment, voilà, désolé pour cette image, mais c'est ce qui s'est passé. Et quand j'ai vu ça, j'ai failli m'évanouir, honnêtement. J'ai vu ça, je me suis dit, putain de merde, c'est mon sang. J'ai failli m'évanouir. Et là, le mec se dit, ah oui, en fait, c'est sérieux, monsieur, apparemment. Il me découpe mon pull avec des ciseaux. Je me souviens, il m'a détruit mon pull. Bon, bah, écoute, voilà, il avait... Enfin, bref. En fait... Et je le montre à la caméra là, je sais pas si on va le voir très bien, je ferai une petite story Insta vite fait à la sortie de cet épisode. Mais en fait voilà, cette superbe cicatrice que j'ai sur le bras a été créée par implosion de mon bras. En fait mon bras a implosé, c'est ce que le mec à l'hôpital, attends on va raconter les choses dans l'ordre. Le mec voit ça, le mec voit mon bras, il est ouvert, genre vraiment ouvert... Moi, je l'ai jamais vu, donc je saurais pas trop te décrire ça, mais mon bras avait implosé, manifestement. J'avais aussi très très mal à la main, en fait, de plus en plus. Même si, honnêtement, pour un mec qui était ouvert, je sentais pas grand-chose. Et honnêtement, j'ai presque pas eu mal du début à la fin de cette histoire, parce que j'étais shooté tout le long, que ça soit par des hormones d'adrénaline au début, ou par des trucs qu'ils m'ont donné ensuite. Parce que qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Le mec, il appelle l'hélico. Il me met sur sa moto des neiges. Je fais une petite virée en moto des neiges jusqu'à la piste d'atterrissage de l'hélico. Et là, il y a l'hélico qui arrive et j'embarque dans l'hélico et je fais le premier et le seul tour d'hélicoptère de ma vie. Tout ça pour aller atterrir sur le toit de l'hôpital le plus proche, bien sûr. Toute petite anecdote vis-à-vis de ça, par ailleurs, c'est que j'ai reçu la facture de l'hélicoptère chez moi après. J'ai reçu la facture de l'hélicoptère et c'était clair, hein. C'était 70€ la minute d'hélicoptère, donc ça monte assez vite et j'avais fait un trajet de 16 minutes, quelque chose comme ça. Au final, j'avais rien payé. Pourquoi ? Parce que j'étais donateur à la REGA, c'est-à-dire je sais pas exactement l'association de secourisme ou la structure de secourisme de ski dans les montagnes. Et grâce à ça, eh ben ils m'ont offert l'hélicoptère. Donc ça servait à ça d'être donateur. Et quand tu en as besoin, t'es content qu'ils viennent te chercher en hélicoptère apparemment. Et en plus, j'ai pas eu à payer. Donc ça, sur le coup, c'était plutôt cool parce que la note était salée. Bref, j'arrive en haut de l'hôpital. On me prend en charge tout de suite. Je me fais décrire la scène de l'implosion de mon bras par le jeune médecin assistant qui m'a recousu, qui m'a plutôt bien recousu d'ailleurs. Même si sur le moment, je me suis dit, ouais, j'aurais peut-être préféré avoir un mec... qui s'y connaît mieux, entre guillemets. Bon, je suppose qu'on a tous, ce genre de d'idées quand on arrive. Après, le mec, il a fait un très bon taf. Le truc, c'est qu'il venait de me raconter qu'il sortait plus ou moins tout juste de l'université, de la même université que moi. Enfin bref, on s'est raconté un peu nos vies pendant qu'il me recousait le bras. Et il m'a dit que, je crois qu'il avait jamais vu ça. En fait, j'ai tapé tellement fort sur la barrière avec mon bras que la barrière est rentrée dans mon bras. Et ça a créé tellement de pression, comme quand tu compresses une bouteille d'eau qui est pleine, ça a fait tellement de pression qu'il a fallu que ça s'ouvre quelque part. Et il m'a dit qu'en fait, c'est comme si on avait ouvert mon bras à la cuillère, tu vois. C'était vraiment, ça n'a pas été tranché, ça n'a pas été découpé, ça s'est juste ouvert parce qu'il fallait que ça pète quelque part, tu vois. Donc, c'était, pour attester de la vitesse à laquelle j'ai tapé dans cette barrière, figure-toi. De même... ce n'est pas la seule chose que je me suis faite. Je me suis explosé la main contre cette barrière parce que ma main a tapé. Et en fait, je ne sais pas si on voit bien à la caméra ici. Je vais essayer de le montrer. Mais tu sais, au-dessus des doigts, tu as ces bosses au-dessus de ces phalanges. Je ne connais pas le terme exact. Attends, je vais les regarder pendant que j'y suis. Ok, j'ai eu du mal à trouver. Je ne suis pas sûr d'avoir trouvé la bonne réponse. J'ai l'impression que ça s'appelle les os des métacarpiens. Quoi qu'il en soit, c'est ces bosses que tu as au tout début de la première phalange de chacun des doigts. Et en fait, je me suis explosé la bosse de l'annulaire gauche. Donc sur ma main gauche, la bosse, elle est presque plate parce qu'en fait, elle est explosée en plein de petites miettes. Et tellement de petites miettes qu'on m'a dit que c'était impossible à opérer parce que j'avais juste réduit en bouillie cet os. Et donc, c'est pas une excellente nouvelle, en fait. Parce que, évidemment, j'ai eu un plâtre. Enfin, bref, j'ai dû attendre un certain temps. Et j'avance un petit peu. Mais ensuite, je suis allé voir un spécialiste de la main qui m'a dit, monsieur, vous avez explosé votre main, en fait. On peut pas, on peut rien faire. Et on m'a dit, parce que j'ai dû faire de la rééducation pour ma main et tout après. Et ce monsieur m'a dit, monsieur, je suis désolé, mais on peut rien faire. Ça veut dire que très probablement, dans 5, dans 10, dans 20 ans, je ne peux pas vous le dire, vous allez avoir de l'arthrose ou une de ces maladies, une dégénérescence des articulations. Cette articulation va s'user beaucoup plus vite que les autres et c'est possible que d'ici 5 à 20 ans ou quoi, on doive vous opérer pour vous mettre une articulation artificielle. Et là, tu vois, ça m'a fait un peu chier quand même quand il m'a dit ça. Tu vois, j'étais obligé de me dire « Ah ouais !» Donc, je me suis... tout ça pour ça, tu vois, je me retrouve le bras dans le plâtre, donc jusqu'à... Enfin, tout le bras dans le plâtre pendant un bon moment. Je reviens à ma vie normale parce que, enfin, voilà, je me retrouve à l'hôpital, je rentre, je rentre le soir, j'arrive chez moi, enfin, je retourne au chalet et je passe la semaine à rien foutre parce qu'évidemment, je ne pouvais plus skier, on est bien d'accord. Ensuite, je rentre chez moi dans ma vie. Et je ne peux plus vraiment m'entraîner. Enfin, je vais à la salle. Je me souviens, je vais à la salle, je fais les jambes. Mais ça me déprime un petit peu, je ne vais pas mentir. Aller à la salle juste pour faire les jambes pendant plusieurs mois, c'était déprimant. Ça m'a laissé le temps de refléter un petit peu sur ce qui s'est passé, sur ce qui aurait pu se passer de pire et sur ce que j'ai risqué, du coup, en échange de quoi ? Contre un petit peu de plaisir éphémère à aller vite et à faire le show sur une journée passée à pratiquer un sport qui ne m'intéresse même pas plus que ça dans le fond, juste pour ça, j'ai risqué de devoir arrêter temporairement de faire le sport qui me passionne. Ça, c'est ce qui s'est passé. J'ai risqué aussi de ne plus jamais pouvoir faire ce sport qui me passionne. J'ai risqué de ne plus jamais pouvoir marcher. J'ai risqué de ne plus jamais pouvoir bouger autre chose que ma tête. Et j'ai risqué encore plus que ça, même si je t'avoue que cette dernière chose est celle qui me fait le plus peur. La tétraplégie, c'est quelque chose qui me fait le plus peur. Et je peux te dire que je sais à peu près de quoi je parle, parce que revenons-en à ces quelques années plus tard. Alors, je l'ai su après coup, plus concrètement, hein, bien sûr, c'est une peur qui est un petit peu plus récente, parce que quand j'étais dans cette institution à m'occuper de personnes, eh bien, il y avait énormément de personnes dans ce cas de figure. Il y en a eu pas mal. Que c'était à cause d'un accident sur la colonne vertébrale ou simplement parce que sclérose en plaques, typiquement, au bout d'un moment, tu perds de plus en plus le contrôle de ton corps et au bout d'un moment, des fois, tu peux plus rien bouger du tout, mais tu es toujours vivant. Tu vois, donc j'ai vu pas mal de ces choses, hein. J'ai vu des accidents aussi, des gens qui ont eu des accidents de voiture, de moto, de choses comme ça et qui se retrouvent dans un fauteuil. Et d'ailleurs, limite, je me reprends. Ce n'est pas ce qui me fait le plus peur, parce que j'ai vu pire que ça. Ce qui me ferait le plus peur, j'ai envie de dire, ce serait plutôt un état de végétation dans lequel je serais peut-être encore conscient dans ma tête, mais je ne pourrais plus communiquer avec personne autour de moi et je serais incapable de contrôler mon propre corps. J'en ai vu aussi des personnes comme cela, je me suis occupé de certaines personnes comme cela, et il y en avait même, justement, on ne pouvait pas savoir si elles comprenaient ce qu'on leur disait ou pas, parce qu'il n'y avait aucun signe de communication, de réponse, de stimuli, mais on les nourrissait, tout allait bien, mais ces personnes, tu vois. Et ça, ça me fait encore plus peur que la tétraplégie, quand même. Mais bref, revenons-en à cet accident, c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'arrêter de skier comme un con. Et ouais, t'as vu, il m'a fallu une petite leçon quand même apparemment pour que ça rentre et que du coup, je décide que ça n'en valait pas les risques en fait. Bref, tu vois où je veux en venir, je pense, avec ces histoires. J'ai pas besoin de t'expliquer la morale de l'histoire pendant 45 minutes de plus. Hein, je vais quand même rapidement conclure un petit peu là-dessus. Quand même, rejoindre ces deux histoires. J'ai arrêté ces deux choses. J'ai arrêté de faire de la moto. J'ai arrêté de skier comme un con. Et j'ai grandement encore diminué ma fréquence de ski. Bah, parce qu'en fait, j'ai eu des entreaperçus plus réels sur ce que je risquais en contrepartie de pratiquer ces activités. En fait, alors j'ai pas eu les mêmes entreaperçus du tout dans les deux histoires. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant. Il n'empêche que les deux ont été efficaces. Il y en a un, le premier avec la moto. J'ai été simplement témoin. J'étais complètement en dehors de l'histoire. Ça ne m'a pas affecté personnellement mon intégrité physique ou psychique. J'ai juste été témoin. J'ai juste assisté à cela. Et la deuxième fois, par contre. Alors là, c'était pour le ski, c'était moi l'acteur principal, t'inquiète. Ce coup-ci, j'ai eu le premier rôle, tu vois. Le problème, c'est que j'avais personne pour jouer mon cascadeur. Donc j'ai dû prendre cette casquette aussi. Et donc, ce que je risquais en contrepartie de faire cela, bah, ça a été fortement mis en lumière avec ces expériences, ce qui m'a fortement poussé à comparer ce que je gagnais à faire cela versus ce que je risquais pour réaliser tout bêtement que lorsque les risques sont plus qu'une lointaine illusion qui n'arrive qu'aux autres, et c'est ça tout le danger, parce que tu sais que la moto, tu peux te péter la gueule, tu sais que le ski, tu peux te péter la gueule et te faire très très mal. C'est qui a eu un accident Est-ce que c'est pas Schumacher qui a eu un accident de ski et qui aujourd'hui est dans un fauteuil roulant, sauf erreur, Schumacher de Formule 1? Il me semble que c'est ça. Il y a eu d'autres accidents du style tomber d'un cheval, ce genre de choses. Des acteurs américains, il me semble, ça me rappelle quelque chose. Bref, ouais, ça arrive aux acteurs connus, ça arrive pas mal aux autres. Et tant que ça reste assez lointain et que c'est pas trop proche de nous, c'est plus facile d'évaluer en fait au présent l'importance de ce risque et de ce que ça peut impliquer pour la suite. Et le fait d'avoir pu y goûter en tant que témoin et en tant que premier intéressé de façon plus concrète dans ces deux cas de figure, eh bien, ça m'a tout simplement fait réaliser que c'était un pari complètement stupide et perdant pour moi que de continuer à faire ça de cette façon. Et c'est notamment après la deuxième expérience, donc quand j'avais 25 ans, après la moto, etc., que j'en suis venu à réconcilier un petit peu tout ça et à prendre conscience entièrement de ces choses et à garder ça en tête depuis ce moment-là, dans ma vie de tous les jours, jusqu'à aujourd'hui également. Je m'arrête pas du tout de vivre pour autant, tu vois, je conduis ma voiture très régulièrement. Si ça se trouve, demain, je me prends un mur ou quelqu'un me rentre dedans, ça peut arriver, tu vois, on va pas s'arrêter de vivre pour autant. Je m'amuse toujours à faire différentes choses qui sont pas nécessairement intelligentes ou utiles. Ça n'empêche que je garde en tête bien plus facilement ces calculs de risques et de récompenses qui sont associés à ces différentes activités. Et je les choisis en conséquence. Tu vois que mes passions, que ce qui me passionne, que ce que j'ai envie de faire au quotidien, tous les jours, me fasse du mal, c'est une chose. Mais que des activités à la con, qui ne m'enrichissent même pas tellement, qui ne m'amusent même pas tellement que ça, puissent me faire autant de mal dans un éclair de malchance ou d'inconscience, ça, c'est une autre, c'en est une autre, tu vois. C'est ce que j'en suis venu à me dire et à voir en face et à me dire, Eric, est-ce que ça vaut la peine de faire ça? Ouais, ça peut être marrant, ça peut être cool. Tu peux passer pour un show devant ceux qui te regardent. Si tout se passe bien, mais qu'est-ce qui se passe si ça se passe pas bien, mec? Est-ce que tu t'en voudras pas toute ta vie? Et peut-être, ça dépend, peut-être. Et c'est donc pour ça que j'ai tout simplement décidé de bannir certaines choses ou certains comportements, donc certaines façons de faire les choses, parce que je skie toujours, mais je skie différemment, tu comprendras, parce que ça met tout simplement en jeu beaucoup trop de choses qui ont vraiment de l'importance pour moi et ma vie future. Ça me ferait tellement... Je peux pas savoir ce que c'est, tu vois, que de se péter la gueule de façon bête et que ça soit entièrement de ta faute parce que t'as fait le con à ski et tu te retrouves dans une chaise toute ta vie et tu continues à vivre toute ta vie avec toi-même qui a fait ça. Je sais pas ce que c'est. Mais... Ouais. Voilà, tu vois où je veux en venir. Je sais pas ce que c'est, j'ai pas envie de savoir, en fait. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc voilà, on arrive à la fin de cette petite, de ces petites histoires, de ce petit épisode, de ce petit story time, j'ai envie de dire. Voilà, je veux juste m'arrêter sur t'encourager, toi qui m'écoutes, qui m'a écouté jusqu'au bout et que je remercie de l'avoir fait, de te poser éventuellement certaines questions de ce genre vis-à-vis de certaines choses que tu fais et de voir si ça ne mettrait pas en lumière plus d'aspects qui mériteraient que tu te penches sur ce même genre de questions. Voilà. Moi, je pars du principe, chacun sa vie, chacun fait ce qu'il veut, d'autant plus et surtout si ça ne met en danger que lui-même. Moi, j'ai pas de souci avec les comportements qui se mettent en danger soi-même, si la personne le fait, qu'elle en est consciente et qu'elle fait ce qu'elle veut, tu vois. Mais voilà, parfois ça affecte d'autres, ça affectera quasiment toujours tes proches ou mes proches aussi, ce qu'on peut décider de prendre en compte. Voilà, on se connaît pas vraiment, toi et moi, tu vois, tu m'écoutes, il y a peu de gens qui écoutent ce podcast que je connais dans la vraie vie. Mais tu en sais un tout petit peu sur moi si t'as écouté pas mal d'épisodes, donc n'hésite pas à prendre tout cela comme si c'était un de tes vrais potes que tu connais vraiment, qui te l'avait raconté en vrai, en face à face, et ce qui, dans ce cas de figure, pourrait t'aider probablement à rendre certaines choses et conséquences plus concrètes Si rien de similaire ne t'est jamais arrivé à toi, eh bien prends mes histoires comme quelque chose que quelqu'un que tu connais aurait pu te raconter, parce que ça te touche plus quand c'est un pote qui te le raconte. Ça devient plus concret déjà, tu dis « Ah oui, c'est arrivé à lui ». Lui, moi, on vit la même vie, tu vois, ou presque, enfin bref. Il n'y a pas de leçons à donner, c'est juste des leçons que je me suis données à moi-même. Comme d'habitude, je me permets de les partager avec celles et ceux que ça intéresse et qui pourraient éventuellement en tirer quelque chose pour elles-mêmes. Voilà, j'espère que ça aura pu t'apporter un petit peu de divertissement, une petite soirée au coin du feu, comme ça, à raconter des histoires avant d'aller dormir, avec une petite morale, comme toutes les belles histoires pour enfants également, tu vois, le père Castor, il y avait sûrement des super morales à la fin, pour que les bébés Castor, ils arrêtent de faire les cons et qu'ils se comportent en bon petit Castor, voilà. on va s'arrêter là-dessus, ma pizza arrive bientôt, tu vois, mais c'est timing parfait, mais quelle belle journée, mais quelle belle soirée en ce qui me concerne. On va s'arrêter là-dessus, ça n'arrive pas toujours, disons plutôt que ça n'arrive qu'aux autres jusqu'à ce que ça nous arrive à nous, tu vois. Donc autant mettre consciemment plus de chance de notre côté pour repousser au maximum certaines de ces échéances. Voilà, c'est un petit peu la leçon que je me suis forcé à avaler ces dernières années. Depuis, je fais attention car il y a beaucoup de choses qui me passionnent dans ma vie et je trouverais ça très bête d'en être privé par des stupidités de ma part. Voilà, sur cette belle morale personnelle, je m'en vais te remercier pour ton temps et ton attention et pour toutes les reviews et tout le soutien, direct ou indirect, que tu me donnes en écoutant ce podcast ou en suivant un petit peu tous les petits trucs que je fais autour de ça, les vidéos, des trucs, voilà, des programmes, des articles dans la boutique. Tout ça, ça fait toujours très plaisir. On se retrouve jeudi prochain, si tout va bien, pour un nouvel épisode. En attendant, travaille bien, prends soin de toi. Prends vraiment soin de toi. Ciao. Bon, t'as officiellement atteint la fin de cet épisode. Félicitations. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir en lui mettant 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast et en t'abonnant pour ne rien rater. Et ça, tu peux le faire là, maintenant, en sortant ton téléphone. Ça prend 5 secondes, tu vois. Merci beaucoup pour ton attention. J'apprécie énormément. Passe une belle fin de journée et à très bientôt.